blanc, ni noir, ni blanc. Pour une vision plus large des choses. Au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
Ça aussi, c'est un sujet qu'on voulait aborder depuis un certain temps, puis on va le faire ce matin parce que le chroniqueur Joseph Facal en a parlé lui-même ce matin dans le Journal de Montréal. La négociation de notes.
Oui.
Et là, restez avec nous, là, on va parler de ceux qui négocient leurs notes au cégep et à l'université, mais également des parents qui négocient les notes de leurs enfants.
Oui, c'est ça, c'est pas juste des étudiants, là. C'est l'attitude générale que la note... Ben, t'as décidé que elle te convient pas.
Bon, là, il fut une époque où le fait de négocier sa note, je veux dire, on y pensait même pas. Là. Si t'avais obtenu cette note-là,
Ouais,
puis tu feras mieux la prochaine fois, puis c'est tout. Là. Ça semble être apparu, Guillaume, à quelque part dans les dernières années. Ça, l'espèce de sentiment que parce que j'ai travaillé fort et j'ai mis beaucoup de temps sur ce travail-là, même si ce que j'ai fait, c'est pas bon, je mérite quand même la note que je veux pour avoir mis autant de temps. C'est, ça va au mérite et non pas au résultat maintenant.
Mm-hmm. Ben, c'est ça. C'est parce que, tu sais, on ne peut pas dire que ce n'est pas correct de négocier dans la vie parce que des fois, il y a des injustices. C'est-à-dire, tu as une note qui ne correspond pas à la compétence que tu as démontrée objectivement, qui n'est pas ton sentiment de compétence, mais il y a des preuves réelles et il y a des barèmes de correction. Puis ça, un, il peut y avoir des erreurs, puis deux, il y a des choses qui peut-être qui n'ont pas été reconnues, qui doivent être reconnues. Puis ça, c'est tout à fait adéquat de s'exprimer pour dire, je pense que non-reconnaissance d'une compétence que j'ai démontrée par tel point. Mais là, avec les courants actuels, on n'a plus besoin de ça, de démontrer des compétences. Tu peux dire que tu négocies sur la base que tu te sens lésé. Et il y a un point, et c'est tout. Ta seule responsabilité, c'est d'essayer de rétablir les choses basées sur ton sentiment.
Il n'y a pas d'argument.
Non, exactement. Parce que il y a différentes manières de négocier. Des fois, il y a des gens, il y a des étudiants qui vont s'essayer, tu sais, de dire, bon, tant qu'à faire, je vais aller me têter un point ou deux de plus. Puis ça, des étudiants vont toujours faire ça. C'est pas légitime du tout, mais c'est moins pire qu'une personne qui réellement, profondément, dans son cœur, au plus profond, sent que le professeur est contre lui ou qu'il y a une injustice, mais basée sur absolument rien. Et c'est ça qui prend de plus en plus de place, qui est littéralement, puis on en parle aujourd'hui, des traits hautement narcissiques. C'est-à-dire, je mérite mieux. Mais pour quelle raison? Non, je n'ai pas à t'expliquer ça. J'ai le sentiment, parce que j'ai investi ma sueur et mes efforts et toutes sortes de raisons qui sont non quantifiables et perceptuelles et subjectives, je mérite mieux. Donc, il y a vraiment une protestation de ça.
Alors, la question qu'on vous pose ce matin, négocier une note. Est-ce acceptable ou pas selon vous? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Si vous êtes un prof en passant ou un enseignant, appelez-nous. On veut vous entendre aussi sur ce phénomène-là. On s'expose quand même, Guillaume, à des dangers pour le futur. C'est-à-dire que si on part sur le principe qu'on va augmenter la note de tout le monde qui pense mériter plus, mais rendu sur le marché du travail, t'as bien beau mériter que tu mérites, t'as bien beau penser que tu mérites 200 000 par année, c'est pas nécessairement ça que tu vas avoir.
Ben, on creuse un peu notre tombe si on fait ça. Et on fait ça parce qu'au cours on a remarqué qu'au cours des 30 dernières années, la qualité du travail fait ou de la compétence des étudiants a diminué alors que leurs notes ont augmenté.
Oh! Quoi qui marche pas avec ça, là?
C'est très grave. Ça veut dire qu'on est tous complices d'une espèce de dérive de satisfaire les exigences selon les sentiments d'une personne et l'évitement de heurter une personne. Donc, les étudiants sont moins performants et ont des meilleures notes. Et ça se ramasse sur le marché du travail jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils frappent un mur, mais le mur, ils vont pas l'accepter. Ils vont se sentir encore une fois discriminés, injustice. Et donc, on crée une déconnexion de la réalité.
Jimmy est au téléphone pour nous parler. Il est enseignant, je pense. Bonjour, Jimmy.
Oui, bonjour, Elisabeth.
Allô,
vous écoute, bonjour, Guillaume.
Allô.
Vous m'entendez, oui.
Très bien.
c'est ça, moi, je suis enseignant en informatique, puis le sujet m'a interpellé un peu ce matin parce que je vis ça assez régulièrement, là, des révisions de notes, des étudiants qui viennent me voir. Puis là, j'entendais un petit peu ton commentaire juste avant, puis effectivement, là, tu marques des points sur le fait que des fois, les étudiants, ils ont de la difficulté avec l'échec.
Ouais,
on a discuté à se faire dire. C'est sûr que moi, quand je rencontre un étudiant pour une révision de notes, ben je prends le temps d'écouter. Tu sais, je prends le temps de regarder ses arguments et de voir qu'est-ce qui m'amène comme argument.
Exact.
Pourquoi tu penses que ma note est pas bonne?
Ouais.
Des fois, les arguments vont être assez solides.
Ouais.
Des fois, ça se peut aussi que je me sois trompé.
Exact, exact. Il n'y a personne de parfait, puis ça sert à ça, une discussion. C'est quel est l'argument fort qui a de la valeur là-dedans, puis il faut être ouvert à ça, absolument.
C'est ça. Bon, j'ai déjà vu un étudiant qui est venu me voir et dit « Ben là, moi, je viens pour me gratter des points.
» Ça commence bien la discussion.
Gratter des points, c'est quoi? Tu vas gratter, c'est quoi? Il y a des graines de notes à faire. Ça finit par te faire passer. Non, non, non. Tu sais, parce que l'étudiant, je pense qu'il y avait 55 ou 56. Il pensait qu'à en grattant, il pourrait se ramasser à
60. Non, il est déjà plus honnête. J'ai de la misère. J'ai le goût de lui donner des points. Il arrive en disant « Salut, j'ai aucun argument. Je suis conscient. Désolé. » Moi, de la conscience qu'il donnait, honnêteté, j'ai de la misère à en vouloir. Il part déjà. Moi, j'aurais donné déjà 3 points juste pour son honnêteté.
Mais Jimmy, en informatique, il n'y a pas toujours... En informatique, il n'y a pas toujours une seule bonne manière de régler un problème. Fait que des fois... moi, j'encourage la pensée divergente des étudiants. C'est que s'il m'arrive avec une solution qui est un peu différente de ce que j'ai montré, ben, je m'en remets en question.
Oui, non, c'est vrai. Mm-hmm. Puis Jimmy, je vais vous dire, là, en vous écoutant, j'ai une pensée spéciale pour les enseignants en éducation physique ou en arts plastiques, parce qu'on dirait que... Non, mais c'est vrai, parce que ces matières-là, tu sais, en mathématiques, là, si t'as pas eu l'équation puis t'as pas la bonne réponse, tu l'as pas la bonne réponse, puis ça finit là, il y a pas de négociation.
Ouais.
Mais en arts plastiques ou en éducation physique, tout est dans l'interprétation de la performance, et là, ils doivent se faire achaler eux autres pour des notes, c'est incroyable. Merci,
production
Jimmy, d'avoir
écrite.
Appelé. Production écrite, même
philosophie.
Chose. Oui, c'est vrai.
C'est sûr qu'il y a quand même des barèmes. Je veux dire, ça prend, par exemple, quand tu écris, il y a une structure, tu as des arguments, tu as de l'orthographe, il y a quand même des pointages établis, mais il y a une petite portion interprétative là,
exactement,
aussi là-dedans.
Oh là là, Frédéric est un autre enseignant qui veut nous parler. Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Oui,
très bien.
Merci.
On vous écoute.
Oui. Bon, écoutez, j'enseigne au secondaire et à l'université, en fait, des futurs enseignants en mathématiques. Donc, quand vous avez dit que c'est facile avec une équation, je suis d'accord avec vous. Ce qui est difficile, c'est lorsqu'on arrive avec la participation à évaluer.
Mm.
Je vous donne un exemple, comme enseignant à l'université, j'évalue des prestations en avant de futurs enseignants.
Ouais.
Et là, ben, les voir face au tableau, s'exprimer en classe, bon, tout ça,
ouais.
Ça peut être parfois, je suis d'accord, un peu subjectif. De là, pourquoi il faut que les enseignants aient une grille bien établie et surtout pas avoir un pourcentage, là, une variation de 100 niveaux, c'est difficile. Tu sais, quand on est juste à 4 ou 5 niveaux, en disant, par exemple, telle ou telle action est posée, c'est un A, telle ou telle action est posée, c'est un B, c'est beaucoup plus facile que de dire, ben 92 ou 90 ou 88.
Oui. Oui, bien ça, c'est un très bon point. Hein. Puis, en fait, j'avais une discussion similaire avec des départements de ressources humaines dans des grandes entreprises où ils se disent, hey, là, on a peur d'évaluer des candidats parce qu'on a peur d'être raciste, on a peur d'être misogyne, on a peur de discriminer. Ben, c'est parce que vos critères sont pas assez précis. Vous vous exposez, puis à quelque part, il faut prendre cette opportunité-là pour clarifier qu'est-ce que vous regardez chez un candidat. Vous pouvez pas juste dire « Ouais, mais ça a pas bien passé. » Non. Sinon, évidemment, c'est une porte grande ouverte pour dire discrimination. Donc, il faut se responsabiliser pour avoir des critères les plus précis possible et les plus découpés possible, pas juste pour se rassurer, pour dire est-ce qu'on a réellement quelque chose à évaluer de précis, puis quelle note ça veut dire. Il faut appuyer les choses. Donc, il y a comme un double enjeu là-dedans.
On doit s'arrêter pour la pause. Négocier une note, est-ce que c'est acceptable ou pas? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Appel spécial aux enseignants et aux professeurs à l'université. On veut avoir votre point de vue. Est-ce que c'est acceptable selon vous? Est-ce que c'est un phénomène que vous vivez? Vous écoutez Ni Noir ni Blanc.
On parle de tout avec vous. De retour à Ni Noir ni Blanc avec Élisabeth Crête et Guillaume Dulude au réseau Cogeco.
C'est un défi pour moi gérer les pauses.
Comment ça?
Ben, m'arrêter, là. Puis comme, là,
c'est reprendre après.
Oh my God, il y a donc même beaucoup de pauses.
C'est comme ça. Il y a un texto qui est entré qui m'a fait beaucoup rire. Quelqu'un dit, imaginez un étudiant en médecine qui s'en va se gratter des notes pour passer. Le voulez-vous comme médecin de famille après?
Bon, ça c'est un super bon point. Pour savoir si un comportement ou une méthode fonctionne, un des trucs, c'est tu prends les variables à une situation puis tu les mets à l'extrême puis tu te demandes si ça fonctionne encore. Même chose, gratter des notes, gosser des notes, essayer de convaincre le professeur que tu mérites ça sans preuve. Demande-toi si ça serait sécuritaire qu'un chirurgien cardiaque fasse « Ah, c'est beau, là, tu l'as ouvert, là, il est comme correct, ce cœur-là. » Sais-tu de même ça marche? Ou un pilote d'avion? Ah, il a atterri comme, t'es comme capable, t'as pas complètement crashé.
Ah oui. On dit l'avion a pas explosé, bon, c'est
bon,
parfait, t'as passé.
Tu passes, c'est correct. Fait que, tu sais, mais la force de ces chants-là, c'est tellement documenté avec précision tous les critères d'évaluation que t'as pas un pouce de marge de manœuvre. Mais pour tout ce qui est performance, science humaine, tout ce qui est plus soft, là, on a moins de critères, là, on s'embarque dans de la négociation. Fait que, les étudiants sont de plus en plus narcissiques, de plus en plus victimes de l'autorité non reconnue, mais aussi, on n'a pas assez de critères suffisamment précis pour essayer de défendre notre point.
Catherine est enseignante aussi pour nous parler. Bonjour.
Oui, bonjour. Donc, moi, c'est ça, j'enseigne le français au secondaire.
Oui.
Et quand ça arrive que des élèves ou même des parents, des fois, c'est les parents qui appellent pour
absolument.
Dire, mais là, cette note-là, je comprends pas pourquoi elle a eu cette note-là. Moi, ce que je leur dis toujours, ben, d'abord, si j'ai fait une erreur de calcul, je suis la première à le reconnaître, puis ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est vraiment la qualité du travail, moi, je leur dis, écoutez, j'ai passé une vingtaine de minutes sur le texte de votre enfant. Moi, à chaque fois que je lis un texte, je trouve des nouvelles fautes. Donc, si vous voulez que je révise, je vais le faire. Je vais passer une heure sur le texte, mais ça se peut que la note descende.
Oh!
C'est super bon, ça!
Ben oui, hein!
Et généralement, ça les rebute, puis ils font comme « Ah, ben ouais, peut-être, mais oui, parce que les fautes, là, quand je lis une fois, j'en vois, mais plus je lis, plus j'en trouve. » Donc, tu sais, c'est un couteau à double tranchant, puis souvent, ils vont reculer là-dessus. Là.
Ah, mais, c'est bon.
Puis Catherine, est-ce que vous avez déjà oui. cédé à la pression d'un parent? C'est-tu déjà arrivé?
Ben, de céder, de réviser, mais je suis prête à reconnaître s'il y a un endroit où c'était peut-être l'élève, oui, tu sais, c'est pas évident, mais de céder, de dire non, je suis pas d'accord avec la note, puis de céder vraiment, pas vraiment, parce que c'est moi l'experte là-dedans, c'est moi qui ai fait la grille.
Exact.
Si ma grille est mal faite, je vais la modifier, mais c'est moi l'experte là-dedans.
Bravo.
Ce que j'ai demandé, il n'a pas répondu aux exigences, donc non, je ne vais pas céder si l'élève n'a pas répondu aux exigences.
Catherine, merci beaucoup
merci.
D'avoir appelé. Merci. Serge, maintenant, est en ligne pour nous parler. Bonjour.
Bonjour, vous deux. Alors, moi, je voulais vous parler de mon expérience. Moi, j'étais un diplômé des hautes études commerciales en 76. Et puis, en 72, à ma première année, j'avais passé un sécu, mais au HEC, on acceptait tout le monde. Mais le test, c'était la première année.
Mm-hmm.
Tu devais réussir 50 dans chaque matière et 60 de moyenne générale. Moi, je me ramasse avec 61. Parce que c'est la première année d'université, on fêtait.
Mm-hmm.
Et puis, un examen à 47.
Oh.
Alors, je vais voir le professeur, je te demande une révision. Il dit, il n'y a pas de problème, va faire ton examen de reprise, ça va être tout l'été pour étudier, et puis tout va fonctionner. Oui. Que je me présente à l'examen, résultat de l'examen, 3%. C'est un examen à tiroir.
Hein?
Un examen à tiroir, 5 processus. Si tu manques le premier, tu n'es plus capable de continuer.
Oh.
Alors, mais quand même, j'explique ma logique, mon déroulement, je vais voir le professeur, je demande une révision de notes, il dit 3%, ça se peut pas. Il dit non, 3%, il dit t'as pas eu la réponse à la fin des 5 tiroirs. J'ai dit mon raisonnement, il était correct. Il dit, monsieur, il dit, c'est pas le raisonnement qu'on mesure, c'est votre capacité à avoir la réponse.
Aïe.
Alors, pendant un an, j'ai suivi un cours, mais ce que je veux vous dire, c'est que faut assumer nos responsabilités. C'est pas la faute de du correcteur. C'est moi qui s'est mis en position de danger. Il
ouais.
faut que j'assume les conséquences. Les conséquences, c'était ça. Tu reprends ton année pour un cours. Alors,
merci,
on a
Serge.
L'impression qu'on va on réussira pas notre vie, mais c'est pas...
Mais non, au contraire. Mais c'est un apprentissage aussi, Serge. Je suis convaincue que le fait d'échouer à cette épreuve-là, ben, ça vous a fait réaliser qu'il faut travailler dans la vie parce que c'est une des conséquences qui peut arriver, cela. Là.
Et dans ma vie, je l'ai bien réussi, mais je pense que c'est à cause de cet échec-là. Et la façon dont j'ai assumé l'échec.
Serge, merci beaucoup d'avoir appelé. Quel beau témoignage, c'est vrai. Hey, 3% ça fait, là. Finalement, mon 47.
Je comprends, là. C'est comme mal structuré, l'examen, quasiment. Oui. C'est comme ça évalue quoi, dans le fond? Oui, ça évalue ta capacité à donner une réponse. OK, mais si tu sais vraiment ça, le mandat de ce cours-là, c'est une autre question.
Mais tu peux te battre pendant des semaines, voire des mois avec ton prof pour qu'il change ta note, ou tu peux juste assumer puis recommencer.
Bien, comme Serge dit, il s'est mis en position de danger. Il a passé à 61, il a coulé un des cours. Il passait à 61 de moyenne. Puis avoir 50 partout, là, on s'entend que c'est pas fort.
Non, c'est ça.
Tu te mets dans une position où tu étais à la limite de tout. Mm-hmm. C'est un choix. C'est un choix personnel. Là.
Faisais le party, il l'a dit, première année.
Tu sais, s'il y avait une moyenne de 87, ben c'est pas grave là, qu'il se tape un 47. Ça aurait eu absolument aucun impact.
Non,
donc, à un moment donné, tu peux pas juste transférer ça sur le système.
Marc est avec nous maintenant. Bonjour, Marc.
Bonjour, vous allez bien?
Oui.
Oui, moi, écoutez, c'est plus comme quelque chose de très cocasse. C'est moi qui étais en faute.
D'accord.
Mais à l'époque, on recule des années 90, là, j'avais un professeur qui, je sais pas ce que je lui ai fait, là, mais tout ce que je faisais, j'avais tout le temps des mauvaises notes. Une journée, j'avais copié intégralement le texte de mon ami que j'avais sous mon bras, là, on recule de longtemps, là. Je suis plus comme ça.
Ouais.
Mais j'avais eu 52%, mon ami eu 80%. Moi, j'étais devoir pour qu'il revise ma note. Il me dit, ah, non, on peut pas faire ça. J'ai sorti le texte à mon ami, j'ai sorti le mien, puis je regarde, on va soit que tu revises ou je vais voir le directeur. Et finalement, il m'a fait passer mon examen.
OK, oui. Fait que si...
C'est un petit peu drastique,
ouais.
Mais dans ce cas-là, j'ai demandé une révision de notes, c'était dans son...
Mais pourquoi il vous aimait pas? Absolument... Le savez-vous?
Ah, ben mon Dieu, c'était en religion, puis j'ai jamais été super croyant. J'avais comme un petit peu en début d'année. Quand on a 17 ans, on est au-dessus de tout le monde. J'avais comme... J'ai opté un peu, puis à chaque fois qu'on avait des interventions, peu importe, là, j'avais tout le temps des notes inférieures. Là, je m'étais rendu, je me suis forcé, puis à un moment donné, ça, avec cet événement-là, tout d'un coup, il s'était sec, moi, on a parlé, puis tout ce temps-là, il était pas mal plus gentil avec moi.
Oui. Disons, et vous avez pris en grippe, là, vraiment.
Ben,
merci beaucoup.
Il y a toutes sortes de domaines qui sont plus militants que d'autres. Hein. Si tu heurtes le militantisme, là, peu importe que tu l'abris sous une religion ou pas, c'est comme ça peut créer de l'abus de pouvoir. Ça, c'était de l'abus de pouvoir.
Ah, absolument.
Carrément. Là. Ah, fait qu'il a bien fait de copier pour ça.
Oui, pour prouver, en fait, qu'il était lésé dans tous les examens, ça, c'est clair.
Ben, oui.
Pascal, maintenant, est avec nous. Bonjour.
Oui, salut. Moi, j'ai arrêté d'enseigner il y a quelques années, entre autres parce que moi, je trouvais qu'on donnait des notes maintenant.
Ouais.
Tu sais, les grilles sont très permissives, contrairement à monsieur qui parlait au HEC, là, qu'il y avait eu 3% là, pour son processus où il s'était planté dès le départ.
Ouais.
Maintenant, c'est très différent. Tu sais, maintenant, le processus, là, on le félicite, là, même s'il est complètement dans le champ. Puis les parents, moi j'enseignais au privé en plus, les parents ils étaient très présents là, même depuis très longtemps.
Ouais.
Ils voulaient des notes, ils voulaient des résultats, sans tenir compte des acquis, sans tenir compte des apprentissages qui sont faits.
Ouais.
Ça, je trouve ça lamentable que l'important ne soit pas que mon enfant ait compris, puis que mon enfant soit capable de passer au niveau supérieur parce qu'il a fait les connaissances nécessaires, mais bien qu'il ait une note dans son bulletin. Alors, moi, maintenant, en tant que maman, les bulletins, je les ouvre même pas. Mes enfants, ils vont super bien, là. Ils ont pas de difficultés notables à l'école, mais le résultat, premièrement, je remettrai jamais le jugement professionnel d'un prof en question. Et puis, je vois que mes enfants, ils apprennent bien, ils progressent bien, puis c'est ça qui est important pour moi.
Vous regardez jamais les notes? Vous regardez jamais?
Je finis par les regarder, là, okay. Mais entre vous et moi, là, souvent, c'est parce que mes amis me parlent qui ont ouvert le bulletin de leurs enfants, puis là, ils me disent, oh mon Dieu, telle affaire, c'est passé telle chose. Puis là, je me dis, oh, faudrait bien que je finisse par l'ouvrir, là, puis je l'ouvre 2-3 semaines après l'avoir reçu. Pour moi, c'est vraiment pas important. Je vois que mes enfants progressent bien, puis c'est la seule chose pour moi qui est importante.
Ben, merci beaucoup, Pascal,
merci,
d'avoir appelé.
Pascal.
Merci.
Ben, moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Je pense que c'est important de faire face aux notes. Pour moi, les notes, les chiffres, c'est un indice qui a juste une précision qui est grande. Et c'est bon de la précision. C'est pas le chiffre qui est important, c'est l'aspect précis du feedback. Ce que tu veux, c'est des critères d'évaluation qui sont précis, des exigences qui sont précises, des stratégies pédagogiques qui sont précises. Et évidemment, un feedback qui est aussi précis. Donc, c'est sûr que les chiffres, c'est une des façons les plus précises qui existent. Et donc, la précision du feedback, moi, je pense que c'est très important. Et jamais on ne doit préserver les émotions négatives de qui que ce soit en minimisant les notes ou en les évacuant. Comme là, c'est en ce moment, la mode, c'est « Ah, sais-tu quoi? On va plus évaluer ça. Les notes, c'est pas bon. » C'est comme, non, c'est bon, ça s'appelle une rétroaction, puis après ça, il faut l'interpréter, puis il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça, puis faire un sens là-dedans.
Quand j'étais au secondaire, il y avait quelqu'un qui... Il y avait une personne, en fait, de mon année qui recevait de l'argent de ses parents quand il y avait, quand il y avait 85 ou plus dans son
business.
Examen. Ouais, c'est ça. J'ai toujours trouvé ça bizarre un petit peu. Quand t'as besoin de ça pour te motiver, c'est peut-être parce que ta motivation n'est pas à bonne place, là, moi, en tout cas.
Mais, hey, entre toi et moi, c'est tellement dur se motiver à aller à l'école.
C'est
tellement d'un ennui absolument spectaculaire. Tu choisis pas ton prof, tu choisis pas tes amis, tu choisis pas tes matières, tu choisis pas tes évaluations.
C'est vrai.
C'est dur, là, tu sais. Je comprends. Faut utiliser des méthodes de motivation diversifiées.
On a Robin à qui on va parler pour le dernier appel. Bonjour, Robin.
Oui, bonjour à vous deux. Justement, pour faire suite aux commentaires de Guillaume sur la précision, j'en ai 200 à chaque session. J'enseigne une charge de cours dans une université dans la région de Montréal.
Oui.
Puis à 200, forcément, sur ta ligne, que tu vas mettre la limite entre le A, le B, le C, il y a plein de monde autour de cette ligne-là qui vont nécessairement vouloir venir négocier.
Oui, oui.
Donc, à chaque fois, à chaque examen, j'en ai 10 ou 15 qui demandent des révisions et j'ai tout le temps le même discours. J'ai pas de problème. Je vais réviser ton examen. Ça se peut que mes correcteurs ou moi, on interprète un peu à la hausse, à la baisse, mais je vais regarder aussi le problème avant, après, puis un peu l'examen. Parce que peut-être que ce numéro-là, j'ai été un peu chien, mais que le numéro d'avant, j'avais été un peu gentil, puis j'ai essayé de balancer l'ensemble de l'œuvre.
Ben, c'est ça. Il y a plein de façons de déterminer est-ce que l'examen est approprié. Il y a plein de méthodes statistiques pour déterminer si, par exemple, le problème A ou le problème, je sais pas, 49, tu sais, s'il est réussi par la vaste majorité des étudiants ou par dans quelle proportion il a été échoué et pour quelle raison. Des fois, la question est mal construite et les choix de réponse sont pas bien structurés. La méthode d'évaluation, donc, ça rend pas service, ça ne donne pas cette fameuse égalité-là d'opportunité de manifester une compétence ou une connaissance. Donc, ça veut dire que la question n'est pas bonne ou ça veut dire qu'il faut la corriger ou remplacer les points. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais négocier seulement sous la forme de « moi, je décide qu'il y a une injustice et c'est tout », ben moi, je pense que c'est complètement... on fait vraiment fausse route là, là-dedans.
Ben ça, puis je veux dire, faut que tu y croies en maudit que tu as été lésé dans ton examen pour prendre la chance de peut-être avoir une révision à la baisse. Faut vraiment que tu sois convaincu que la correction n'a pas été juste.
Ça s'appelle
toi,
avoir
là.
Des arguments.
Oui,
ça,
voilà,
ça veut dire être préparé. Tu peux pas juste dire, moi, j'ai une émotion négative et ce n'est à partir du moment plus mon problème et je te balance ça, toi, autorité hiérarchique comme professeur. Non, non, tu n'es pas content. Tu expliques, tu fais ton argumentaire, tu éduques le prof avec un discours qui est cohérent. Puis là, le professeur, la plupart des professeurs vont être contents de voir, waouh, voici un élève rigoureux qui amène du contenu. C'est vrai qu'il est lésé là-dedans. Parce que si, imagine un élève qui est meilleur, ça veut dire qu'il a été meilleur prof à quelque part. Comme, quel prof souhaite à la baisse sa moyenne? C'est bon pour personne. Donc, quand un étudiant arrive avec des arguments qui sont valeureux, ben, c'est super. C'est comme, hey, on est super content de valoriser cette fameuse compétence-là parce que c'est ta job de prof de transmettre ça.
C'était très intéressant de vous entendre, en tout cas. Merci aux enseignants
ben oui,
et à tous ceux qui ont appelé.
Oui.
C'était vraiment intéressant. On doit s'arrêter pour une pause. C'est le courrier du cœur au
ça
retour.
Ça sent le courrier du cœur.
Quel beau jeu de mots.
Excellent.
On va parler des odeurs et de l'hygiène au retour de la pause dans le courrier du cœur. Soyez avec nous dans Ni noir ni blanc.